Rebonjour. Désolé pour ce contretemps. J'ai tout éteint, tout rallumé, en espérant que ça sera mieux pour vous tous. Rebonjour Jean-Gilbert, rebonjour Rosanie. J'espère que la connexion va mieux maintenant. Je ne sais pas, vous me faites savoir. Je vois qu'il y a 5 personnes de connectées. Good. Perfect. So everything is back to normal. I think the screen is better. I think the sound is probably better. Well, that's the deal with the computer. Désolé pour ce contretemps. J'espère qu'on n'aura pas trop perdu de gens. Qui seront tous de retour bientôt. Je vois que vous êtes 9, mais je ne vois pas tous les noms, donc désolé si je ne suis pas en mesure de vous identifier. Bonjour la sœur Flori au frère Louis. Rebonjour Natacha, rebonjour Indiren. Voilà, donc il y a eu un petit pépin informatique, mais ça semble être réglé maintenant. Alors, en espérant qu'on n'aura pas perdu trop de gens. Juste vérifier un petit truc. Ça a l'air d'être. Allô, allô. Ça a l'air d'aller. OK. Pouvez-vous me dire si le son est bon, si l'image est bonne? Juste me confirmer le tout. Je vais encore approcher le micro ici, juste par précaution. Je viens de voir une coupure encore. En tout cas, dans l'image, ça semble avoir coupé un peu. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de troubles. Mon poète, ça fait quelques jours que je ne te voyais pas. Que Dieu te bénisse. We may need discernment this morning. How come? So the sound is not good? Bonjour Janine. Bonjour Jan. Could you just let me know if everything is fine? Pouvez juste me dire s'il vous plaît si tout est beau. Merci Sampa Wendy. Donc, le son semble bien de son côté à elle. Right now, okay. So, hopefully, everything turns out good. But we lost people. On a perdu des gens lorsqu'on s'est déconnecté pour se reconnecter. Il y avait quelques problèmes ce matin, bizarrement. On va prendre un peu de temps pour permettre à tout le monde de se reconnecter. Et puis, comme je ne peux pas voir tout le monde, si vous voulez une petite salutation en direct, juste mettre une petite note dans la zone commentaire pour que je puisse vous identifier. Alors, merci au pasteur David, merci à Jimmy, Natacha, Sampa Wende, mon père, la sœur Sylvia qui me disent que tout est beau maintenant. Donc voilà. Si vous entendez du bruit, je pense que j'ai vu la photo de mi compadre, el hermano Edwin. Dios le bendiga, hermano. Y a la hermana Heidi también. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux dans la ruelle derrière l'église. Donc ça se pourrait que vous entendiez quelques sons saugrenus. Bonjour Julie, que Dieu vous bénisse. Donc on donne un peu de temps pour que les gens puissent se connecter, comme on a eu un petit trouble tout à l'heure. Mais ça devrait aller bientôt. Donc comme je disais, dans la première connexion, une journée encore très chaude aujourd'hui. Hier, on a ressenti jusqu'à 42 à cause du facteur humidex et ça va tourner autour de ces normes-là aujourd'hui encore. Tu sais, mon poète, que le bonhomme à l'écran est un problème technique. Bonjour Denise, bonjour Gérard, que Dieu vous bénisse. Donc pour ceux qui sont appelés à sortir aujourd'hui, on vous invite à vous prémunir d'une bouteille d'eau. Vous allez en avoir besoin. Alors encore une petite minute juste. Pour s'assurer que ceux qui étaient déconnectés puissent se reconnecter. En attendant, on vous rappelle que le cours sur le livre des actes a été donné hier par le pasteur André. C'est toujours disponible sur la page Facebook de l'Église. Quand vous regardez après notre dévotion de ce matin, si vous faites descendre un peu l'écran, vous allez voir donc le cours. Qui a été donné hier par le pasteur André. De surcroît à cela, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont bel et bien lieu. Et puis cette semaine, innovation, on accueille les enfants de 6 ans et plus. Il n'y a pas de classe, effectivement. Les enfants restent avec les parents. Les enfants sont soumis aussi aux mêmes règles sanitaires qui sont imposés aux adultes, donc la distanciation, le port du masque. On a essayé cela avec des enfants de 8 ans jusqu'à présent. Ça s'est bien passé. Et puis maintenant, donc, on descend à 6 ans. Donc, les enfants seront assis avec leurs parents dans le sanctuaire. Et puis, les parents auront donc la responsabilité de s'assurer qu'on ne fait pas de gros câlins à ces enfants qu'on n'a pas vus depuis déjà trop longtemps. Donc, pour vous inscrire, encore une fois, il y a une petite publicité qui a été postée sur Facebook. Vous descendrez la page tout à l'heure et vous verrez une publicité de couleur un peu bleue qui vous donne les façons de vous inscrire. Mais comme on le dit, c'est pour les enfants de 6 ans et plus. Même si vous avez 77 ans, vous êtes encore un enfant. Voilà. Donc, prions et on débute ce matin. Merci Seigneur pour cet autre temps que tu nous donnes pour méditer ta parole, pour l'étudier, pour apprendre, pour être béni et nourri par cette parole. Je te demande Seigneur que tout ce qui est d'ordre technique ce matin qui a semblé achoper un peu tout à l'heure soit placé sous le contrôle de ta main toute puissante. Prends contrôle de tous les mots qui vont être prononcés, prends contrôle des sujets qui vont être abordés. pour que mes frères, mes sœurs et moi-même, nous puissions être bénis par cet enseignement et bénis, Seigneur, par tout ce que tu as préparé pour nous. Donc, que ta grâce nous accompagne, que ton onction puisse venir éclairer cette parole et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue pour ce temps de bénédiction matinale, un temps dans lequel nous étudions cette semaine le passage dans 1 Pierre 1, du verset 3 au verset 9, mais principalement du verset 6 au verset 9. Je vais relire le texte qu'on a pour aujourd'hui et puis aussi nous assurer de poursuivre avec l'enseignement donc du jour. Donc le verset 6 nous dit: C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et je relis le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors je rappelle le titre de cette semaine, Notre salut supporte l'épreuve. Notre salut supporte l'épreuve. L'idée de cette semaine qui a été initiée par le pasteur Hannibal ce dimanche lors de la prédication où on étudiait ce texte, c'est de comprendre quelle est ma réaction ou quelle devrait être ma réaction face aux épreuves. Assurément, on passe tous par des moments difficiles. Et lorsqu'on parle de ces chrétiens à qui cette épître est envoyée, on parle de gens qui ont été déportés, qui ont fui la persécution qui régnait tout d'abord à Jérusalem et qui s'est répandue dans toute la Judée. Et là, on va voir que ces chrétiens vont aller jusque dans les extrémités de l'Asie. Ce faisant, oui, les gens sont déportés et oui, les gens sont amenés à être éloignés de leur terre patrie. Mais de surcroît à cela, on voit aussi que l'Évangile, malgré tout, va se répandre. Et face à ces tribulations, face à ces menaces, face aux moments difficiles que l'Église primitive pouvait connaître et l'Église de cette génération pouvait connaître, Pierre va exhorter ses croyants à maintenir une joie, à maintenir une allégresse dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur vision de tous les jours. Et aujourd'hui, il va expliquer à quoi sert l'épreuve. Hier, on a vu le terme épreuve avec le terme peirasmos. Aujourd'hui, on va le voir avec un autre terme. Et je répète donc le verset 7 qu'on va étudier par section aujourd'hui, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Première section, l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. Épreuve ici, c'est un autre mot synonyme de peirasmos qu'on a vu hier, mais un autre mot qui se dit dokimion. Dokimion, donc pour ceux qui prennent des notes, Ça s'écrit Dokimion. Je répète, Dokimion, Dokimion, qui va nous parler encore une fois d'un test, qui va nous parler d'une démonstration et qui va nous parler d'une chose qui a été prouvée. Donc encore dans la même idée qu'hier, les épreuves, c'est pour démontrer une chose. Et ici, on dit l'épreuve de votre foi, donc la démonstration de notre foi. Le terme foi, un terme qu'on a souvent utilisé à travers les mois, le terme pistis, donc P-I-S-T-I-S, je répète, foi, pistis, P-I-S-T-I-S, qui nous parle d'une conviction profonde, j'ajouterais même d'une conviction viscérale de la vérité de Dieu. Donc, regroupons ces deux termes, épreuve de la foi, dokimion du pistis, donc une démonstration, une preuve de la solidité de notre attachement à la vérité de Dieu. Vous savez, on aime la parole de Dieu. Vous êtes matin après matin réunis avec moi pour l'étudier, pour prendre un temps à apprendre sur Dieu. Mais très régulièrement, lorsque les épreuves viennent, malheureusement, dirons-nous, il y a bien des chrétiens qui laissent de côté la parole de Dieu. Quand les choses deviennent intenses, au lieu de se réfugier encore davantage dans cette parole pour se fortifier, certains par dépit, certains par frustration, certains pour manifester un mécontentement, vont avoir tendance à délaisser la parole de Dieu. D'autres, c'est parce que, étant pris à essayer de se dépêtrer de leur situation par eux-mêmes, oublient d'aller chercher la solution à leur situation, là où la parfaite et excellente solution se trouve, donc dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. L'épreuve va faire en sorte de mettre ta foi en géopardie, de mettre ta foi pas en danger, mais en test. Et ce qui va ressortir de ce test, le résultat de ce test, ça va être une démonstration claire, une démonstration évidente de la solidité de ton attachement à la parole de Dieu. Non seulement dans le fait de te réfugier dans cette parole, mais de surcroît à cela, dans le fait de croire à cette parole. Rappelons-nous ce que nous dit Hébreux au chapitre 11, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère, une manifestation de celles qu'on espère. Ça veut donc dire que ta foi est une manifestation claire de ce que tu crois, une manifestation évidente de ce que tu as pris comme étant une certitude de Dieu. Donc, lorsque ta foi est éprouvée, ça va démontrer, pas à Dieu, parce que Dieu sait déjà l'état de ta foi, il connaît déjà l'état de ton cœur, il connaît déjà l'état de ta vie spirituelle, mais ça va te démontrer à toi, voire à toute autre personne et à toute autre entité spirituelle, l'état réel de ta foi. Lorsque Job va être éprouvé, et le pasteur Hannibal a abordé un peu l'histoire de Job dimanche matin. Lorsqu'on regarde l'histoire de Job, on se rend compte que Dieu va présenter Job en disant, il ne se trouve aucun homme aussi intègre sur toute la surface de la terre. T'as beau te promener à droite et à gauche, tu ne trouveras, dit-il au diable, tu ne trouveras personne comme Job. Donc Dieu est déjà conscient et déjà convaincu de l'état spirituel de Job et de la solidité de sa foi. Le diable va dire à Dieu, regarde, si tu touches sa famille, il va te larguer. Puis si tu touches ses biens, il va te larguer. Si tu touches sa santé, il va te larguer. Et à chaque fois, Dieu va dire non, ça ne sera pas le cas. Pourquoi est-il en mesure de dire non, ce ne sera pas le cas? Parce qu'il connaît Job, parce qu'il sait de quoi Job est fait. La personne qui ne le sait pas, c'est le diable, voire Job lui-même. Et à travers cette épreuve, bien que Job va rester intègre, bien que Job va rester effectivement l'homme que Dieu avait dit qu'il était, mais il va atteindre des limites de sa foi. Il va être amené dans des retranchements de son être spirituel qu'il n'avait pas encore atteint jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce moment-là. Il va arriver dans un temps de souffrance, dans un temps d'épreuve qui va lui montrer les limites même de sa croyance, les limites de sa foi, les limites de ce qu'il acquiesce comme étant véridiquement la parole de Dieu. Donc pour nous, lorsque nous sommes éprouvés, nous passons aussi par ce même processus où Dieu va se servir des épreuves afin de nous illustrer à nous nos limites. Donc une démonstration de la solidité de notre attachement à la parole de Dieu. Voilà. Donc, une démonstration de la solidité de notre attachement à la parole de Dieu et de notre attachement à la vérité même de Dieu. Deuxième partie, la foi qui est plus précieuse encore que l'or périssable, même si cet or est aussi éprouvé par le feu. L'or, juste pour avoir quelques termes, plus précieuse, la foi plus précieuse, donc politimos en grec, plus précieuse, P-O-L-Y-T-I-M-O-S, qui veut dire d'une grande valeur ou d'un grand prix. Donc on nous dit ici que la foi a une valeur énorme et précieuse aux yeux de Dieu, plus précieuse que l'or. Or, c'est le terme chrysion, donc C-H-R-Y-S-I-O-N, je répète pour ceux qui prennent des notes, C-H-R-Y-S-I-O-N, qui va nous parler de l'or dans sa matière brute, qui va nous parler d'une pièce d'or et de surcroît à cela aussi d'un ornement d'or, soit un bijou, soit une pièce décorative qui est faite en or. Or périssable, apollymi, A-P-O-L-L-Y-M-I. Donc de l'or qu'on peut détruire, de l'or qu'on peut rendre inutile, de l'or qu'on peut ruiner et perdre. Et ici, Pierre va donc comparer la foi précieuse, plus précieuse que l'or périssable, qui a malgré tout été éprouvée par le feu. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que la foi du croyant, l'image la plus précieuse qu'elle pourrait avoir, c'est l'or. Et Dieu dit, à mes yeux, c'est encore plus précieux que l'or. Et il dit, mais l'or est tout de même éprouvé par le feu. Et malgré tout, cet or qui a été éprouvé, cet or qui a été assaini, cet or duquel on a enlevé tout ce qui était souillure, même s'il est très précieux, aux yeux de Dieu, il ne sera jamais aussi précieux que la foi de ses enfants. Donc lorsque tu présentes une foi authentique, lorsque tu présentes une foi vibrante, aux yeux de Dieu, cette foi est particulièrement précieuse. En fait, pour Dieu, il n'y a pas une substance de l'être humain, il n'y a pas une chose chez l'être humain qui est plus précieuse que cette foi. La foi plus précieuse que l'or, cet or même éprouvé par le feu. Donc, premier point qu'on a vu, l'épreuve va être une démonstration de la solidité de ton attachement à la parole de Dieu, de la solidité de ta foi. Cette foi, en deuxième point, que Dieu chérit, la foi de ses enfants, que Dieu aime plus encore que les plus précieux joyaux qu'on pourrait avoir ici-bas sur terre. On nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Donc, on va sauter pour l'instant la louange, la gloire et l'honneur. On va juste rassembler. Est pour résultat, lorsque Christ apparaîtra, la louange, la gloire, l'honneur. Est pour résultat, lorsque Christ apparaîtra. Résultat, c'est le terme iorisko. Iorisko, donc H-E-U-R-I-S-K-O. Je répète, H-E-U-R-I-S-K-O, qui nous parle de devenir, de découvrir et de trouver. C'est dans le sens où on vient à découvrir la vraie nature d'une chose. Après l'avoir assainie comme l'or qu'on a fait passer par le feu, on vient à découvrir toute la richesse, tout le côté précieux de l'or. Au départ, on estime l'or qu'il pourrait s'avérer précieux, mais pour qu'il prenne toute sa valeur, il faut que ce filon, il faut que cette pépite d'or soit passée par le feu pour en enlever tous les scories ou toutes les impuretés. Et tout cela va se passer aussi pour toi et pour moi. À un moment donné, notre foi va atteindre son paroxysme, va atteindre son sommet lorsque Christ apparaîtra. Actuellement, nous sommes tous dans ce processus où nous tendons à la stature parfaite de Christ. Nous sommes tous dans ce processus où nous sommes affinés par les choses par lesquelles nous traversons, par les épreuves qui sont nôtres. Nous sommes purifiés par ces épreuves afin de faire en sorte que notre foi, au jour où Christ va apparaître, soit maintenant considérée comme parfaitement pure, honorable et digne de mention devant le Seigneur. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la foi du croyant va aboutir et sera attestée comme véridique et juste lorsque elle sera confirmée à même le retour de Christ. Aujourd'hui, on annonce Christ. Aujourd'hui, on annonce que nous croyons à un retour de Christ. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous faisons parce que nous croyons effectivement qu'un jour, Christ va revenir et va amener chacun d'entre nous en jugement pour toute action, pour toute parole. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous faisons parce que nous croyons que nous pouvons prétendre au salut et à la vie éternelle avec Christ comme seule source et unique source de salut pour l'être humain. Mais tout cela est fait par la foi. Et cette foi sera attestée comme véridique et juste lorsque Christ va apparaître. Ça sera déclaré comme juste et véridique par Dieu. Mais ça sera aussi déclaré juste et véridique par toute personne qui verra le résultat. Parce que tous pourront dire, effectivement, tel individu a cru au retour de Christ, telle personne a cru à l'avènement de Christ, et sa bénédiction et sa récompense aujourd'hui est parfaitement juste. Ce jour-là, personne ne pourra berner qui que ce soit. Ce jour-là, personne ne pourra prétendre faussement quoi que ce soit. Ce jour-là, c'est la vérité de ta foi qui sera mise en évidence. L'épreuve fait en sorte que je fortifie ma foi. Vous savez tous les choses par lesquelles je suis passé il y a maintenant quelques années. Et ce que j'ai appris à travers ces épreuves difficiles, c'est que l'épreuve va faire deux choses. Soit tu vas t'approcher de Dieu, soit tu vas t'en éloigner. Soit ta foi va se fortifier, soit ta foi va s'amoindrir. Mais passer par une épreuve intense, comme l'or qui passe par le feu intense, ça ne te laisse pas identique. Soit tu y perds, soit tu y gagnes. Et hier, bien entendu, on s'est tous motivés les uns les autres à être les champions que Dieu veut qu'on soit. Que nous soyons des champions de la foi, que nous puissions effectivement être ces hommes et ces femmes qui, au dernier jour, lorsque le Seigneur cherchait son Église, que nous puissions effectivement être attestés comme ayant été véridiques dans notre foi véridique, dans notre engagement avec Dieu. Donc, cela va se faire lorsque Christ va arriver, lorsque Christ va revenir chercher son Église. Qu'est-ce qui va apparaître ce jour-là? Qu'est-ce qui va être fait ce jour-là? On nous dit, et on prend souvent cette partie de texte un peu de façon erronée. Écoutez ce qu'on nous dit. Pour que votre foi, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Ma foi va faire en sorte qu'il va y avoir louange, gloire et honneur lorsque Christ apparaîtra. On peut voir cette partie-là comme dans deux sens. Souvent, on va l'expliquer que cela va servir, va contribuer à la louange, à la gloire et à l'honneur de Jésus lorsqu'il va apparaître. Assurément, lorsque tu es fidèle à ton Seigneur, lorsque tu vis une vie comme il veut que tu la vives, et lorsque tu te comportes et que tu vis en véritable champion pour Christ, assurément, ça honore Dieu, ça honore ton maître. Comme lorsque on est employé dans une compagnie et qu'on travaille bien, notre travail sert à l'honneur qu'on va donner à une compagnie. Si le produit qu'on rend est bon, c'est tout à l'honneur de la compagnie pour laquelle nous travaillons. Si on est un constructeur de maison, si je construis bien une maison, ben l'honneur va être au nom de la compagnie pour laquelle je travaille. Donc effectivement, on peut parler ici de louange, on peut parler ici de gloire et on peut parler aussi d'honneur envers Dieu hein, qui est donné en raison de la foi que j'ai manifestée. Alors le premier point que tu peux saisir, c'est oui, tu sers à la gloire de Dieu. Et ça devrait déjà être merveilleux. Ça veut dire qu'une partie de la gloire que Dieu reçoit vient du travail que tu exécutes, vient de la foi que tu manifestes et vient de la solidité de cette foi que tu maintiens dans ta vie. Mais lorsqu'on parle de louange, de gloire et d'honneur, j'aimerais vous amener sur une autre tangente très rapidement. La louange, c'est le terme epainos, E-P-A-I-N-O-S, E-P-A-I-N-O-S, qui nous parle d'éloge, oui, mais qui nous parle aussi d'approbation. Lorsqu'on parle de gloire, c'est le terme doxa, en grec, D-O-X-A, qui nous parle d'une bonne opinion, qui nous parle d'une brillance, d'une excellence, d'une magnificence. Et lorsqu'on parle d'honneur, on nous parle de timé, T-I-M-E. Je répète, honneur, timé, T-I-M-E. Donc, il nous parle d'une estimation, d'un prix, de quelque chose qu'on va priser, donc auquel on va attribuer un prix, et de quelque chose sur lequel on attribue une qualité, un qualitatif au niveau de son côté précieux ou non. Dieu est merveilleux en tout temps. Sa gloire ne change pas. Et tous les prix qu'on voudrait mettre sur Dieu, tous les prix qu'on voudrait placer sur Dieu, sont banco. Ça tient pas. Pourquoi? Parce que Dieu dépasse même tous les prix qu'on pourrait fixer à son égard. Est-ce qu'on parle ici effectivement de Dieu? J'en doute. Mon opinion, c'est qu'on parle ici effectivement de la foi. Notre foi rendue devant Christ va être epainos, va être doxa et va être timé. Va être loué tout d'abord, dans le sens éloge et approbation. Lorsqu'on parle de la louange ici, ça veut donc dire que notre foi, un jour, va être récompensée par l'approbation de Christ. La Bible nous dit que le Seigneur est non seulement celui qui donne, il nous dit qu'il est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Il est non seulement le consommateur, donc celui qui bénéficie de la foi de ses enfants, mais il est aussi le rémunérateur. Le rémunérateur, ça veut donc dire celui qui paye pour la foi de ses enfants, celui qui récompense la foi de ses enfants. Pour que ma foi soit récompensée, il faut donc qu'elle ait été jugée et qu'elle ait été approuvée et qu'elle soit ainsi récompensée. Alors ici, je crois effectivement qu'on parle de la louange qui va être faite par rapport à ta foi, par rapport à ma foi, donc qui sera récompensée par l'approbation de Christ. Alors pose-toi la question. Actuellement, l'état de ta foi, pense, dans quel état est ta foi? Est-ce que cette foi peut être effectivement récompensée par Christ? Deuxième point, la gloire, doxa. On nous parle d'une bonne opinion, d'une brillance, d'une excellence, d'une magnificence. Repensons à l'état de Job. Job va être présenté face au diable comme un trophée. Le diable vient de se promener un peu partout sur la surface de la terre, se présente devant Dieu. Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens? » Il dit « Ah, je me suis promené à droite et à gauche, j'ai fait le tour de la terre. » Et Dieu lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il ne s'en trouve aucun qui soit aussi intègre que lui. » Dieu présente Job comme un trophée. Dieu présente Job comme quelque chose d'admirable. Est-ce que Dieu peut faire la même chose avec toi? Est-ce que Dieu peut te présenter comme quelque chose de brillant, comme quelque chose d'excellent, comme quelque chose qui exulte de la magnificence? Est-ce que tu es un trophée que Dieu peut présenter? Lorsqu'on parle de gloire ici, de doxa, on nous dit donc que la foi sera récompensée non seulement par l'approbation de Christ, mais de surcroît aussi par la mise en évidence de notre personne. Si ma foi est vibrante, si ma foi est approuvée de Dieu, dans un tel cas, ma foi va être aussi présentée en trophée. On a tous eu des hommes, des femmes qui nous ont précédés, qui ont été dans notre génération auprès de nous, des hommes de foi, qu'on a imités, qu'on a regardés et qu'on a tenté de copier. J'espère que vous avez eu de telles personnes. Je sais qu'à un moment donné, lorsque mon histoire avec la maladie s'est passée, il y avait des gens qui venaient me voir par la suite, qui étaient tombés malades et qui me disaient « Pasteur, parce que toi tu as réagi de telle manière, alors on se dit que nous aussi on doit réagir de telle manière. Puisque toi tu as confronté la maladie d'une telle manière, alors cet exemple nous a servi à nous pour nous positionner face à la maladie. » Ce qui fait en sorte que ma foi, dans un certain degré, sert de modèle à d'autres. Lorsqu'on parle du doxa, lorsqu'on parle de cette foi qui est mise en évidence, c'est donc cette foi qui est exposée à tous. Est-ce que Dieu peut véritablement exposer ta foi comme un chef-d'œuvre? Lorsqu'on parle de doxa, c'est ce qu'on nous dit. Vous savez, lorsque vous êtes à l'école et que vous appartenez à ce qu'on appelle le tableau d'honneur. Donc, vous avez eu de merveilleux résultats, vous avez eu de bonnes notes scolaires et ces notes font en sorte que on prend votre photo et dans un endroit spécifique de l'école, il y a un tableau dans lequel on dit tous les lauréats pour telle réussite sont ici et on met votre photo. Est-ce que Dieu peut vous afficher? Au même titre où Dieu va prendre une série d'hommes, de femmes dans Hébreux 11 que nous on va baptiser, on va nommer familièrement les héros de la foi. Est-ce que tu cadres avec ces héros de la foi? Est-ce que tu cadres avec ces personnes que Dieu peut élever en disant voici quelqu'un qui m'est fidèle, voici quelqu'un en qui je prends plaisir? Et enfin, le terme timé, honneur, estimation d'un prix, établissement du prix d'une chose, établissement du degré de préciosité d'une chose. La foi va être dûment récompensée à son juste prix. Mon frère, si tu appliques la foi dans ta vie aujourd'hui, si tu vis par la foi, ce n'est pas inutile. Cette foi ne va pas être laissée sans être récompensée par Dieu. Lorsque Jésus va venir chercher son Église, nous aurons tous, selon la mesure de notre foi et selon la mesure de l'application pratico-pratique de notre foi, nous aurons tous des couronnes qui nous reviendront. On est tous sauvés et ce salut est gratuit et ne vient que par une seule source, Jésus. La mort et la résurrection du Fils de Dieu. Par contre, lorsqu'on parle des couronnes, on parle de récompense pour le travail, pour la façon de travailler, pour l'attitude à travers laquelle on a travaillé. Et aussi, on parle de récompense par rapport à notre foi. Notre foi est-elle restée vigoureuse? Notre foi est-elle restée ferme? Lorsque Paul va dire qu'il a combattu le bon combat de la foi, pourras-tu dire toi aussi qu'ayant combattu le bon combat de la foi, cette couronne t'est aussi destinée? Ta foi va être récompensée ou ta foi va être laissée pour compte. Quelle sera ton attitude? Quelle sera la réponse de Dieu par rapport à ta foi? Peut-il, oui, louer ta foi, donc en l'approuvant et en faisant l'éloge? Peut-il, oui, glorifier ta foi dans le sens de rendre une opinion favorable par rapport à ta foi et la présenter comme un trophée? Et enfin, peut-il t'honorer? Peut-il te récompenser, lui qui est le rémunérateur, donc celui qui paye, celui qui salarie ses enfants, celui qui donne le chèque de paye pour la foi? Quel sera ton chèque de paye? Sera-t-il élevé? Sera-t-il faible? Tu es un champion. Tu devrais viser un gros chèque de paye pour ta foi. Voilà ce que nous avions pour ce matin. Alors, prions. On a été beaucoup dérangé ce matin. Quelques problèmes techniques au départ, puis après ça, des intrusions à droite et à gauche. Mais le message est passé malgré tout. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous amener dans des vérités qu'on laisse parfois de côté. La foi n'est pas une petite chose. La foi est un trésor que tu chéris profondément. Et la foi que nous manifestons est aussi une foi qui élève ton nom, qui glorifie ton nom et qui t'honore. Mais Seigneur, ta parole nous dit que tu es non seulement le consommateur, celui qui travaille avec la foi de ses enfants, mais de surcroît à cela, que tu es aussi le rémunérateur de la foi, donc celui qui récompense la foi de ses enfants. Alors je prie, Seigneur, pour ma sœur, je prie pour mon frère, et je prie aussi pour moi, Seigneur, que la foi que j'affiche, que la foi que je manifeste, soit une foi effectivement que tu peux approuver, de laquelle tu peux faire l'éloge, que ce soit une foi de laquelle tu as une bonne opinion, que tu présentes comme un trophée, qui puisse servir à d'autres, peut-être comme un modèle aussi. Et que cette foi, Seigneur, puisse être dûment récompensée par ta provision et ta bénédiction. Seigneur, ma vie t'est consacrée, nos vies te sont consacrées. Mais un jour, on aura des comptes à rendre pour comment on a mené ces vies, pour qu'est-ce qu'on a fait, pour ce qu'on a fait avec ces vies, pour la foi qui a été nôtre. Alors je prie, Seigneur, que si ma sœur passe par des moments difficiles actuellement, qu'elle comprenne que c'est l'occasion de fortifier sa foi, que c'est l'occasion de démontrer de la solidité de sa foi. Que ma sœur, Seigneur, qui passe peut-être par des circonstances ardues. Ne s'arrête pas à la difficulté du moment présent, mais qu'elle comprenne qu'elle est en train de faire une tâche qui lui amène des récompenses dans l'éternité, qui honore ton nom, mais qui l'honore elle aussi. Alors je prie que ma sœur puisse fortifier sa foi. Je prie que mon frère puisse travailler à solidifier sa foi. Je prie, Seigneur, que tu viennes à notre secours, que tu nous fortifies, que tu nous aides à être des hommes et des femmes comme Job, que tu peux utiliser à ta gloire, mais aussi présenter comme des trophées à ton honneur. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Garde-nous aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin avec le verset 8. Et puis, pour ceux qui se demandent, est-ce que je suis là le 1er juillet, jour de la fête nationale du Canada? Je serai là, j'ai été là le jour de la fête nationale du Québec. Je serai là aussi pour le pays. Donc, jeudi, je serai là et vendredi, bien entendu, on terminera la semaine. Mais sur ce, on vous rappelle une chose importante, les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche ont cours. On vous invite à écrire ou à appeler pour vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants, même de 6 ans et plus. Donc, ça va permettre à des petites familles de venir célébrer le Seigneur avec nous ce dimanche. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour la suite des bénédictions matinales. Au revoir tout le monde, bonne journée.